sont ensuite rentrés dans leurs universités occupées depuis novembre. Les manifestants appellent à une grève générale symbolique demain dans tout le pays.
Radio G, Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.
Salariés agricoles.
Les élections Chambre d'agriculture, ça vous concerne.
L'évolution du monde agricole doit se faire avec ses salariés.
Jusqu'au 31 janvier, cultivons notre avenir.
Votez CFTC Agri.
Avec la CFTC Agri, vous allez changer d'avis sur le syndicalisme.
Alors jusqu'au 31 janvier, votez constructif.
Votez CFTC Agri.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
On y a cru, mais finalement non. Le soleil est reparti, de la grisaille partout à Angers et dans le Maine-et-Loire. Le moral n'est pas au top, mais on va essayer quand même de vous donner un petit peu de sourire et d'apporter du soleil dans vos cœurs et dans vos têtes ce soir à l'écoute de Topette, la quotidienne de Radio G. On était avec Raphaël pour nous parler de son projet musical, autrice, compositrice, chanteuse. Et Julien, lundi dernier, mardi, nous étions avec le THV et hier, nous étions avec Rêvasson. Une très belle émission, justement, avec Bertrand et son équipe. Et ce soir, nous sommes du côté de Loire-Authion puisque nous allons parler de l'inauguration de l'exposition Mystère du Gange. Ça se passe à Loire-Odyssée, c'est le 1er février. On sera avec Anne Prigent et Leslie Dibos pour en parler dans Topette ce soir. Mais aussi à Loire-Authion, Céline Ducoc, chargée de projet culturel, qui va nous parler des prochains spectacles de la saison culturelle de Loire-Authion, bien évidemment, et aussi des nuits de la lecture. On avait commencé à l'évoquer d'ailleurs avec le THV mardi. Au cours de cette émission, nous aurons les légendes imaginaires de l'Anjou avec celle des chênes, cette je ne sais pas quoi, c'est un peu bizarre, Nolwenn. D'ailleurs, bonsoir Nolwenn.
Bonsoir.
Ça va?
Ouais, ça va super.
Ça fait du bien de revenir ici, hein.
Oui, j'ai eu des petites vacances, ça faisait du bien.
Ça faisait du bien, bon, comme si elle était torturée ici au travail, non, bien sûr que non. On aura aussi Charlie au cours de cette émission, bonsoir Charlie.
Salut.
Ça va?
Ouais, carrément.
Bonne année.
Merci, ouais, je suis...
C'est la première fois de 2025 que t'es là?
Tout à fait.
Alors qu'est-ce qui se passe dans ta petite crocro ce soir?
Eh ben justement, je vais parler de mon jour de l'an et puis de la crocro un peu manquée avant, en décembre, si tu te souviens.
Ah oui, oulala, carnage. Bon, Adrien m'en a parlé hein, d'ailleurs.
Ah.
Choupi m'a tout dit aussi en fin d'émission, la chronique féline de Topette et du 100.5 FM. Topette qui, justement, est partie pour ce soir.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Avant toute chose, Nolwenn, on fait un point sur l'actu? Rebonsoir Nolwenn, on commence avec un appel à témoignage pour la mémoire industrielle d'Angers.
À Angers, dans le quartier Chalouère-Saint-Serge, un habitant, Stéphane Germain, s'est plongé dans l'histoire industrielle locale. Avec l'aide d'autres passionnés, il veut préserver la mémoire des entreprises d'autrefois, comme les parapluies Lafarge ou les cycles Continental. Ces entreprises qui ont marqué le quartier ont disparu avec le temps, mais leur héritage reste. Une exposition sur ce passé ouvrier est prévue pour la fête du quartier le 15 juin. Si vous avez des témoignages ou des souvenirs, vous pouvez contacter Stéphane Germain à l'adresse mail germain, G-E-R-M-I-N, .stéphane@orange.fr.
L'enquête des Halles Biltoki classée, mais le débat continue, Nolwenn.
La justice a clos l'enquête pour prise illégale d'intérêt et favoritisme concernant la construction des Halles à Angers. Le procureur a annoncé un classement sans suite, expliquant que le projet respectait le droit privé et qu'aucune irrégularité n'a été prouvée. Mais les élus écologistes qui avaient signalé l'affaire ne sont pas convaincus. Ils pointent les 5,5 millions d'euros investis en grande partie publique et se demande pourquoi le maire et la municipalité ont joué un rôle si central dans ce projet privé. Des questions restent, disent-ils, sur l'intérêt général.
La Maine qui amorce enfin sa décrue.
La Maine a gonflé après les pluies de janvier et a atteint 5,6 mètres lundi, son plus haut niveau depuis l'automne. Mais pas d'inquiétude, la décrue est en cours. La vigilance orange devrait repasser au vert aujourd'hui ou bien vendredi, selon la DREAL. Pour comparaison, on est loin de la crue historique de 1995 qui avait atteint les 7,4 mètres. Ce genre de phénomène reste modéré et arrive tous les 2 à 3 ans pour la Loire.
Merci beaucoup Nolwenn, on va savoir dans quelques instants si la Loire, elle aussi, amorce sa décrue. Mais avant tout ça, l'enquête 1920 qui reprend du service avec les passeurs de l'impalpable, ça se passe au Folie Angevine le 21 janvier. Plus d'infos sur leur site internet lespasseursdelimpalpable.fr. Et sinon, la diffusion du film documentaire C'est comme ça, ce vendredi 17 janvier à 15h à la salle Camille Lepage. Un film documentaire sur la vie d'une ouvrière en usine, suivi de la rencontre avec cette ouvrière, Marie-Jo. C'est proposé par la maison de quartier des Hauts de Saint-Aubin.
L'invité de Topette sur Radio G.
De la Maine à la Loire, il n'y a qu'un seul pas que nous franchissons ce soir dans Topette. Bonsoir Céline, si tu veux bien t'emparer du micro.
Bonsoir.
Céline Ducoc, chargée de projets culturels à Loire-Authion. Dans quelques instants, on sera sur la Biennale des Grands Fleuves qui repart pour 2025-2027 avec les Mystères du Gange. Mais avant tout ça, Céline, il se passe des choses culturellement. La culture n'est pas morte à Loire-Authion puisqu'il y a des spectacles qui arrivent. Alors sur ma liste, sous mes yeux, j'ai Rire de tous les maux le 18 janvier, Orage le 26 à Andard et Oignon le 6 février à Andard également. On parle de ces spectacles, Céline ?
Oui, c'est ça, on redémarre là, le mois de janvier, c'est le mois souvent un peu chargé, mais c'est aussi un mois où il fait froid, donc on aime bien être en salle. Donc là, on a ce week-end le Rire de tous les maux, qui est une lecture assez originale, mais malheureusement qui est déjà complète.
Donc vous fermez vos oreilles.
Voilà. Donc, j'en dis pas beaucoup plus parce que ce serait mettre l'eau à la bouche.
Bon, on peut quand même en parler puisque justement les oreilles, il en est question, je crois, avec ce spectacle.
Ouais, c'est ça. C'est une lecture en fait, vraiment, mais qui a été théâtralisée. Et on a sur scène deux lecteurs, comédiens, musiciens qui nous emmènent, découvrir des textes du répertoire contemporain, la littérature. Mais ils le font avec beaucoup d'humour et c'est ça qui est assez chouette.
C'est la compagnie TSF.
Voilà, c'est ça.
Avec cette émission littéraire radiophonique, mais qui est malheureusement complète. On pouvait pas anticiper. Ça part très vite. Est-ce qu'il reste quand même des places pour les deux autres
Bien
spectacles
sûr. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que donc pour Orage, qui est un solo clownesque, qui se passe sous la pluie. Donc la compagnie Barolo Solo, on l'avait déjà accueilli. Et sa spécificité, c'est de travailler avec cet élément-là, l'eau. Il s'amuse beaucoup avec, et donc là, Mathieu Levavasseur sera sous un kiosque qui goûte, et il va s'amuser de cet élément humide. À la fois, c'est un spectacle poétique par les mots, mais aussi, il manie très bien la chanson, la musique, et évidemment aussi tout ce qui fait les joies d'un clown, donc l'acrobatie et autres pirouettes. Donc c'est un spectacle qui se veut très tout public, hein, ouvert aux familles bien sûr, mais aussi aux adultes. Donc n'hésitez pas.
À partir de 7 ans quand même, c'est un clown, mais c'est pas du burlesque comme on peut l'entendre des fois.
Mais comme souvent le clown, quand il dit des choses, il s'adresse pas aux tout petits. Parce que c'est vrai que ça porte des choses, des messages, et aussi le clown c'est aller chercher un peu un personnage au fond de soi, qui révèle une intériorité, et pour les plus jeunes c'est rarement adapté.
Oui, c'est une forme de théâtre qui implique le spectateur, les spectatrices d'une certaine façon. Alors ça, c'est Orage, le 26 janvier à Andard, toujours à Andard du coup, avec Oignon.
Voilà, tout simplement. Donc là, on est sur un faux solo, puisque c'est un duo assez caché. Donc elle est seule en scène, mais elle joue avec son acolyte qui est à la technique. Et donc là, c'est une femme, et elle va nous dresser un peu son portrait. On va aller découvrir son histoire et comment c'est parfois difficile de lâcher prise. Et elle va essayer de le faire en dévoilant petit à petit chaque couche comme un oignon, d'où le nom du spectacle. On va aller pareil à découvrir un peu des brides de sa vie. C'est à la fois intime, mais drôle, très, puisqu'elle a cette capacité de décaler les choses. Et la spécificité, c'est qu'elle a recours aux claquettes, qui est aussi une forme d'expression un peu particulière, mais qui nous emmène aussi dans des rythmes. Et donc c'est ça qui est assez prenant.
C'est avec la compagnie Le Ventre tout à l'heure, c'était avec la compagnie Barolosso, comme tu le disais. Les deux dates sont en Andard, c'est pas la seule salle chauffée quand même pour les spectacles en hiver.
Non, mais on tourne, hein, de Loire-Authion, 7 communes déléguées, on tourne. Donc là, il s'avère qu'on fait deux salles en peu de temps sur cette commune.
Et je t'ai pas demandé, Céline, du coup, je parlais de la Maine tout à l'heure, j'ai fait la transition, mais j'ai même pas expliqué pourquoi la Loire est en crue en ce moment à Loire-Authion. Ça déborde ou ça va?
Alors, ça déborde toujours un petit peu, mais ça va, on maîtrise. Puis, La Maison de la Loire est là, éveille.
La Maison de la Loire, voilà, c'est ça. Anne et Leslie qui vont prendre le micro dans quelques instants. Juste, tu parlais de danse, de claquettes. On va en parler de danse avec un spectacle qui arrive et puis les nuits de la lecture. Mais avant tout ça, on fait une première pause musicale. Nolwenn, qu'est-ce que tu nous proposes ce soir
On va écouter. On va écouter A Great Fortune de Oda.
Quel accent.
First dream I saw was those I am diamonds.
Écoutez Great Fortune de Oda sur le 101.5 FM et on revient tout de suite avec nos invités de ce soir, Pierre Benoît.
Effectivement, Nolwenn, car nous sommes toujours avec toi, Céline Ducoc, chargée de projet culturel de Loire-Authion. On évoquait les spectacles, alors on ne l'a pas pris dans l'ordre chronologique. On parlait de Orage, de Oignon et puis aussi, bon là c'est complet donc on ne l'annonce même plus. Mais avant tout ça, les 24 et 25 janvier, il se passe des choses. La nuit, notamment, puisque ce sont la nuit de la lecture, les nuits même, on aura une soirée conte et puis aussi une soirée danse. Et vous, on va peut-être prendre dans l'ordre chronologique cette fois-là, Céline, si tu veux bien, d'un rêve à l'autre, c'est ça hein.
Oui, c'est ça. Donc oui, les nuits de la lecture, c'est un événement national hein, qui met à l'honneur les mots, les maudits, voilà. Donc les médiathèques s'en saisissent, et en particulier le réseau médiathèque de Loire-Authion. Donc là, le 24 janvier, c'est la médiathèque d'Andar, qui accueille la conteuse Françoise Damour, voilà, pour une soirée conte ouverte à tous, tout public. Donc ce sera ce premier temps à 20h.
Et tout à l'heure, on parlait de l'implication quand on avait un clown en face de nous. Là aussi, c'est implicatif puisqu'il y a des lecteurs qui ont déposé leurs rêves dans une urne. C'est que les habitants et habitantes ont pu imaginer
des
choses.
C'est ça, il y a eu un appel. Celles et ceux qui le souhaitaient avaient jusqu'au 18 janvier pour déposer leurs rêves dans une boîte. Et certains des textes seront lus pendant les nuits de la lecture.
T'as pu en avoir un petit aperçu?
Alors non, j'ai pas eu cette chance. Donc je peux pas vous dévoiler en avant-première les rêves des habitants de Loire-Authion.
Sinon, Céline serait partie dans une lecture. On aurait lancé un petit habillage sonore derrière. Et puis, ça y est, on serait parti dans un rêve, justement. Du rêve à la danse, il n'y a qu'un pas de danse, là aussi, puisque le 25, le lendemain, c'est de la lecture, mais danser, cette fois.
Oui, c'est ça. Alors, le pont se fait parce qu'on reviendra en parler ici, mais on a un projet cette année assez fort qui s'appelle Dansez-vous autour de la danse. Et donc là, le lien s'est fait avec la lecture. Donc là, pour la soirée, ce sera à la fois la danseuse Christine Letertre qui anime sur le territoire une association de danse et les lecteurs que nous, on a qui sont des lecteurs bénévoles des réseaux médiathèques qui s'associeront pour une très belle soirée le 25 janvier.
C'est vrai qu'à chaque fois que tu passes et que Loire-Authion passe dans l'émission Topette, on a l'impression qu'il y a une sacrée effervescence culturelle du côté de Loire-Authion. Ça se confirme encore cette année pour 2025, de belles perspectives qui s'ouvrent ou pas?
Oui, il y a des beaux projets. En tout cas, on va pouvoir en parler autour du Gange, il va se passer plein de choses. Enfin voilà, on continue effectivement, et à la fois au niveau de la commune, mais aussi porté par les acteurs associatifs.
Petite question quand même, alors sans rentrer dans la politique ou les débats, mais est-ce qu'il y aura des impacts quelconques vis-à-vis de ce qui s'est passé en région récemment avec le vote des budgets? Est-ce que tu as eu des bruits de couloir, des compagnies qui vont peut-être souffrir pour entendre des choses?
Oui, nous, sur Loire-Authion, on n'est pas directement touchés parce qu'on n'avait pas de financement de la région. On n'a pas de compagnies sur le territoire, mais par contre, on a beaucoup de compagnies avec lesquelles on travaille, qui sont touchés de façon assez forte. C'est le cas en particulier de la compagnie Loba, qu'on a accueillie au mois de novembre, qui voit en effet sa participation largement diminuée, donc avec des risques pour son activité.
Bon, en tout cas, la saison culturelle se poursuit à Loire-Authion jusqu'en juin. Souvent, ça s'unit avec un banquet, je crois, c'est ça?
Alors non, nous ouvrons avec le banquet,
mais
là, on finit avec Fleuve, en fait. Et donc, le Gange dont on va parler va couler jusqu'au mois de juin. Et l'événement phare, ce sera en effet au mois de juin.
Et bien, la transition est toute trouvée. Quand même, les informations pratiques avant de passer au Fleuve pour de bon. Céline, on les retrouve où? Est-ce qu'il y a des systèmes d'abonnement, de cartes, de passes, ouais, de réduction pour la saison?
Alors, pour la saison culturelle, vous pouvez aller sur loire-authion.fr. Vous avez tous les tarifs. Donc, et vous pouvez réserver en ligne. Donc, c'est très simple. Vous pouvez aussi nous appeler au 02 52 21 10 08.
Attends, 02 41.
Non, 02 51.
51.
52, pardon. 21 10 08.
On le mettra en description du podcast, ce sera plus simple.
Et puis ensuite, pour les médiathèques, je vous invite à réserver, parce que c'est gratuit. Mais à réserver par mail à médiathèque@loire-authion.fr.
Et ben voilà, les informations pratiques sont données. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aimerais revenir, Céline, avant qu'on passe sur le fleuve, une autre date ou là pour l'instant on va s'en contenir en rester à ça?
Non, après on se donnera rendez-vous tout début mars. Le 1er mars, ce sera une date importante pour nous avec Moukta, groupe phare qui viendra jouer à Saint-Mathurin-sur-Loire.
Voilà, on n'en dit pas plus pour l'instant, mais commencez à guetter les réservations, surtout, puisque sinon ça va vite se remplir. Merci beaucoup Céline, tu restes avec nous, on les redonnera les infos pratiques tout à l'heure. Pardonnez-moi, il est temps de passer à la crocro de Charlie ce soir dans Topette.
Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter...
La croco, la chronique de Charlie.
En voiture, Simone !
Non mais sérieux ? La croco, la chronique de Charlie.
J'adore le hula-hoop !
Ironique, absurde, réfléchi. La croco, la chronique de Charlie.
J'ai mangé une méduse.
Survolté, décalé, déjanté. La fofo, la folie de Charlie.
Bonjour et excellente année à tous. Je reviens dans la douceur après une longue absence. Oh là là, ça commence fort cette année. Bon, je suis étonné que la radio soit encore là, hein, parce qu'après le gros fuck que Christelle Mourancé a fait à la culture, j'ai vu sur le bon coin que Radio G vendait ses micros. Hein. Donc seul Pierre Benoît pourra parler et interagir avec lui-même. En arrivant à la radio tout à l'heure, j'ai vu que des meubles étaient déjà partis. J'ai acheté une part de gâteau proposée par les services civiques qui m'ont expliqué que Pierre Benoît, pour boucler le budget, offre maintenant des prestations intimes. Je tiens à expliquer l'absence de ma chronique le 19 décembre. Hein. J'étais en chemin pour la radio, mais Adrien, le chroniqueur du mercredi, à qui j'ai lu ma chronique, s'est accroché à ma jambe en me suppliant de ne pas y aller parce que « Ton papier est un vrai brûlot nazi, tu vas faire fermer la radio. » Alors c'est vrai, c'est une chronique où j'ai mis beaucoup de cœur, mais je trouve qu'il exagère. Nos échanges ont été vifs et je continuais à avancer, mais après l'avoir traîné sur 3 kilomètres, j'ai lâché. Ces arguments m'ont convaincu ? Non, ma jambe était démise. Adrien me disait que, au mieux, j'étais viré de la radio, et donc j'allais à Sud Radio, et au pire, c'était la fermeture de Radio G. Donc tu vois, Pierre Benoît, ça relativise tout de suite le fuck de Christelle. Tu peux encore ouvrir la porte le matin.
Merci.
Tout ça m'amène à vous raconter mon nouvel an. Avec un pote, on nous a parlé d'une soirée baltrade, c'est-à-dire bal traditionnel, dans la Sarthe. On y va, tranquille. Là-bas, les gens sont dehors, c'est étonnant. Mais surtout, ils portent des fusils. Alors on se regarde avec mon pote et là des grosses potes s'allument et plein d'assiettes partent dans les airs et se font dégommer. Oui, en fait, c'était une soirée baltrape. Avec mon pote, on se barre direct avec la voiture qui ne démarre pas. Hein. La batterie est KO. On est obligé donc de demander de l'aide aux gens. Mais bien sûr, on va vous aider, mais d'abord un petit verre. Alors on fait un effort, hein, surtout qu'on n'a pas le choix. Arrivent rapidement des blagues, simples, certaines un peu lourdes, clairement Socrate n'aurait pas ri. Hein. Bon, nous on fait pas de vagues, on sourit poliment, on repousse au mieux le pastis qu'on nous tend. Tout bascule quand quelqu'un sort une blague nazie. Bon bah là je craque. Non seulement parce que du pastis circule dans mes veines, mais surtout toute la frustration de ma chronique abandonnée explose. Hein. Je me fais alors plaisir. En déroulant ma chronique à l'assistance, les rires sont nombreux, je jubile. Là-dessus, mon pote retourne direct à la voiture et moi, j'accepte volontiers un autre pastis. Finalement, ces gens sont sympathiques. Bon, rapidement, minuit arrive et là, on me tend un fusil. Alors, autant je suis pacifiste, hein, autant je suis ouvert aux expériences. Tout est bien organisé. À minuit, 12 coups de fusil sont tirés, puis c'est un nouveau lâcher d'assiette volante. Hein. Je tire moi aussi dans le tas, et clairement, c'est bien mieux qu'en jeu vidéo. Hein. Au sol, je découvre que les assiettes sont à l'effigie de Marine Tondelier. Hein. Bisous Marine. Oui, parce que le baltrap utilise des cartouches à grenaille de plomb. Et chaque année en France, c'est plus de 2000 tonnes de plomb qui sont disséminées dans la nature. Ce qui est bien, c'est quand on se balade en forêt, on ne les voit pas. Voilà, en tout cas, moi j'ai passé un très bon jour de l'an, et comme quoi on est toujours enrichi au contact des autres.
La cocro, la cocro. Ironique, absurde, réfléchie, survoltée, décalée, déjantée, la chronique de Charlie.
Eh bien merci beaucoup Charlie, on se retrouve dans deux semaines quand même, tu me refais pas un coup à la...
Mais oui,
je serai là. C'est une vraie information qu'Adrien m'a confirmée, hein, qu'il censurait tes chroniques, qu'il les relisait avant. Je me demandais bien à quoi ça pouvait ressembler avant censure d'Adrien, une crocro de Charlie. Merci beaucoup en tout cas, t'aimes bien la Loire toi ?
J'adore, le Gange aussi.
Et ben voilà, justement ça tombe bien, on y retourne.
Loupette, avec Pierre Benoît, sur Radio G.
De la Loire au Gange, non je vais pas la refaire à chaque fois, il n'y a qu'un pas là aussi puisque nous allons maintenant à la Loire-Authion, toujours à Loire-Odyssée plus précisément pour parler de la Biennale des Grands Fleuves et cette année, ces deux années qui arrivent, ce sera autour du Gange avec une grande soirée d'inauguration qui va avoir cours. Pour en parler, on est avec Anne Prigent. Bonsoir Anne.
Bonsoir.
C'est donc toi qui étais venue il y a deux mois dans Topette, fan de Oda, je crois, avec The Great Fortune. Toi, tu es chargée de médiation auprès des publics et de l'événementiel à Loire-Odyssée. Et cette fois-là, tu es accompagnée de Leslie. Bonsoir Leslie.
Bonsoir.
Leslie Dibos, chargée d'exposition et éducatrice environnement à Loire-Odyssée. Finalement, à vous deux, vous réunissez un petit peu le rôle de cette maison de la Loire. Justement, on peut peut-être repréciser avant de partir sur la Biennale, qu'est-ce que Loire-Odyssée, Leslie ?
Alors, Loire-Odyssée, c'est un espace culturel, on peut dire ça comme ça. C'est géré par une association qui s'appelle la Maison de Loire en Anjou. Et notre objectif, c'est de faire découvrir le fleuve ligérien tous ses attraits, que ça soit autour de la flore, de l'histoire, du patrimoine, au travers d'animations, d'événementiels et d'expositions.
Voilà, il y a une exposition permanente sur la Loire, en fait, Anne, à Loire-Odyssée. On peut rentrer et puis tout de suite profiter de l'histoire de la Loire.
Oui, exactement. C'est une exposition permanente qui est complétée sur un autre fleuve du monde tous les deux ans pour mettre en avant les spécificités, les différences, comment on vit sur un autre fleuve, puisque le nôtre, on en parle dans le site, et puis on fait 10 pas et on est au bord. Justement, en ce moment, on est encore plus près.
Il faut juste 5 pas et c'est bon, on est auprès
c'est
de la Loire.
Et donc, on essaye de mettre en avant un autre fleuve du monde. Donc, on a dit avec tristesse au revoir au Mississippi au mois de novembre. J'étais venue en parler, justement. Et on accueille avec joie le Gange pour 2 ans.
On va en parler de cette biennale. Biennale, ça signifie 2 ans, tous les 2 ans, 2025 jusqu'en 2027. Donc ça fait bien 2. Mais avant tout ça, l'intérêt de parler de la Loire, de sensibiliser les gens, de créer des animations autour. Quels sont les enjeux? C'est rappeler qu'on a besoin de ce rapport sain avec notre environnement, Leslie?
Ben oui, c'est vrai que... on ne se rend pas forcément compte, mais les cours d'eau, c'est quand même l'essentiel de la vie. Donc on... la Loire est un énorme cours d'eau et nous, notre souhait, c'est vraiment de rappeler aux gens que ce n'est pas qu'un fleuve à contempler, c'est un fleuve à choyer. On a la chance quand même que la Loire soit relativement préservée comparé à d'autres fleuves dans le monde. Et donc voilà, on est là pour rappeler toujours ce lien qui doit unir l'homme et ses cours d'eau.
Et justement, Anne, est-ce qu'on a des enjeux écologiques prenant actuellement avec la Loire, des problématiques qui mériteraient, sur lesquelles on mériterait de pointer un petit peu le doigt?
Comme toujours, la sauvegarde de la biodiversité, c'est important. Faire attention aussi à nos comportements en bord de Loire ou sur la Loire. Préserver nos sternes qui sont, quand elles peuvent, en train de nicher sur les bancs de sable. Donc,
ce sont des oiseaux, précisons-le.
Oui, les sternes, nos oiseaux phares, ou stars, comme on aime le rappeler. Donc voilà, on a toute cette sensibilisation que l'on fait aussi bien dans le site, qu'à l'accueil, que aussi sur le bateau promenade. Donc vraiment pour sensibiliser sans faire peur, mais expliquer que tout ce qui est beau autour de nous, on doit le garder.
Et comme il n'y a pas que la Loire dans le monde, qu'il y a plein d'autres grands fleuves un peu partout, on était à la découverte du Mississippi ces 2 dernières années, là les 2 qui s'ouvrent, on va partir en Inde, c'est bien en Inde, le Gange. On a l'exposition Les Mystères du Gange, donc inauguration le 1er février, ça arrive incessamment sous peu, Leslie.
Oui, maintenant il reste plus qu'une quinzaine de jours pour découvrir ce fleuve mythique. Tout le monde a dû entendre parler à un moment ou à un autre du Gange. Donc voilà, on a hâte d'accueillir tout le monde est bienvenu.
Alors pourquoi ce choix de Gange? Ça se fait aléatoirement, il y a une commission qui se réunit, qui décide?
Alors oui, il y a une commission, mais après le choix c'est sur les envies, les envies des uns et des autres. On est associatif, c'est vrai que pas mal de nos adhérents sont allés un jour ou l'autre découvrir ce pays et ce fleuve. Et donc il est naturellement ressorti... lors de cette édition-là.
Oui, c'est un grand fleuve incontournable, Anne. On connaît forcément le Gange, même si on visualise des fois, on ne sait même pas où le localiser sur la carte, on voit à peu près où c'est quand même.
Exactement. Quand on a commencé à travailler sur le fleuve, il fallait déjà savoir où est-ce qu'il coulait, parce que l'Inde, c'est très très grand, donc c'est tout au nord. Le Gange prend sa source dans les montagnes, tout en haut là, de l'Everest. Donc voilà, nos bénévoles nous ont dit qu'une fois qu'ils étaient allés en Inde, ils étaient revenus différents. Et ça a toute sa portée d'essayer de faire revivre ce qu'ils ont vécu là-bas.
Charlie, je te pose la question, je te sens, ou en tout cas avoir eu l'âme globe trotteuse, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de traverser le Gange?
Je me suis déjà baigné dans le Gange, mais effectivement j'ai voyagé en Inde et je suis aussi allé à Varanasi où j'ai vu les fameux bûchers là quand ils brûlent les corps des gens comme ça avant de les jeter dans le Gange quoi.
Ouais, c'est une culture très différente justement qu'on va pouvoir découvrir pendant ces 2 ans à Loire-Odyssée. Alors commençons par l'après-midi du coup du samedi 1er février, quelles vont être les animations Leslie, Anne.
Alors, j'y vais. Alors sur les animations, donc on invite tout le monde à nous rejoindre à 14h à Loire-Odyssée, donc au vin levé du roi René à Saint-Mathurin-sur-Loire. Et donc on va avoir un programme d'animation qui va plaire, j'espère, à tout le monde, avec un concert de musique indienne, donc ce qu'on dit musique classique, on va dire, avec sitar et tabla, par le duo Riyas Caro, donc des deux musiciens des Pays de la Loire. Et puis on aura aussi deux temps de contes sur l'histoire de la création du Gange, de la déesse Ganga, avec Albertine, qui est une habitante du de Loire-Authion, donc qui nous a fait le plaisir de proposer la création de contes. Et puis on aura aussi évidemment toute l'exposition Jeu, les mystères du Gange à découvrir pour la première fois, puisque ça sera l'ouverture seulement au 1er février. Donc ça, c'est tout le travail de Leslie et de notre scénographe.
Une après-midi bien remplie. Alors l'exposition, on va pouvoir en profiter pendant 2 ans. On peut avoir un petit aperçu, on ne va pas tout dévoiler quand même, Leslie, mais donner envie à voir. Déjà, les couleurs semblent très oranges sur le prospectus.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a l'Inde, c'est les couleurs hein, qu'on a l'idée de ce pays, les odeurs, les couleurs. Et donc nous, le principe, on a vraiment voulu montrer au travers de cette exposition le lien fort qui unit les hindous, parce que c'est pas tous les indiens non plus, mais quand même une bonne partie de la population. Alors les hindous et leurs fleuves, comprendre en quoi il est si sacré, et donc ben au travers de 4 endroits bien identifiés, donc j'en dis pas plus, vous viendrez découvrir, on comprend un petit peu les relations entre les pèlerins et ce fleuve-là.
J'ai le sentiment que chacun de nos sens, ou presque, vont être stimulés du coup au cours de cette exposition. Ça, c'est pour le top départ. Du coup, pendant 2 ans, elle sera là, mais il n'y aura pas que ça. Il va y avoir d'autres après-midi, d'autres matinées, d'autres journées, d'autres semaines, peut-être des animations, des débats. Comment on va animer cette biennale pendant 2 ans, Leslie ?
Alors, pendant 2 ans, oui, on va essayer de se donner des rendez-vous réguliers pour découvrir non pas que le Gange, mais l'Inde au sens plus large. Donc des conférences, peut-être des ateliers pour découvrir la culture et le patrimoine indien.
Céline, je te vois regarder le prospectus, si jamais tu veux t'en emparer, nous dire le Gange, c'est pareil, est-ce que tu as un rapport particulier, est-ce que tu connaissais, quel regard tu portes sur cette exposition qui va ouvrir?
Alors moi j'avoue que je ne suis pas du tout une experte, puisque je n'ai pas eu la chance de voyager en Inde, et j'ai découvert, mais c'est ça qui est intéressant aussi, la culture, les liens, tout ce qu'il y avait autour de cette dynamique, parce que c'est quand même un pays très riche, avec une culture ancestrale, avec musicalement une richesse qui est assez folle. C'est le pays de naissance aussi de plein de cultures qui ont bougé, hein. Tous les gens, ce qu'on appelle sous un terme très vague, gens du voyage, pour une part, puisent leurs origines près de ce fleuve. Donc c'est, je trouve, un monde passionnant à découvrir. Donc je vous invite à plonger.
Et même nos langues, hein. On parle de langues indo-européennes, donc j'imagine que oui, ce sera l'occasion de faire un focus, non pas que sur le fleuve, mais aussi sur cette culture, comme vous le dites, Leslie et Anne, qui, du coup, des fois, on l'a dans un coin de la tête, mais on oublie précisément ce que c'est. En termes d'informations pratiques, quand même, qu'est-ce qu'il faut retenir sur les mystères du Gange, sur cet après-midi du samedi 1er février, Leslie?
Mais dès 14h, on vous attend pour soit écouter de la musique, soit écouter des histoires, ou tout simplement participer au jeu de l'exposition.
Anne ?
De 14h à 17h30, à l'Odyssée, à Saint-Mathurin-sur-Loire. Ça sera le tout début de notre exposition. C'est évidemment gratuit, ouvert à tous. On espère que beaucoup de gens viendront, et évidemment les familles sont invités à venir jouer avec nous sur cet après-midi-là, et seront accueillis avec nos bénévoles également.
Eh ben, peut-être que Charlie sera là, je l'ai vu noter dans son agenda la date, en tout cas il a save the date comme on dit. Vous restez avec nous, Anne, Leslie et Céline, on va récapituler tout ce qu'on s'est dit. Et avant tout ça, on fait un petit détour par une légende imaginaire de l'Anjou, ce soir avec toi Nolwenn.
Chers auditeurs, bienvenue dans notre chronique consacrée aux légendes de l'Anjou. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire fascinante du chêne des sept frères. Une légende qui plonge ses racines dans le cœur du Maine-et-Loire. Notre récit nous emmène dans la forêt de Chandelay, située entre Beaugé et Longué-Jumelles. Cette forêt, l'une des plus vastes du département, abrite en son sein un arbre remarquable, le chêne des sept frères. Cet arbre majestueux, vieux de plusieurs siècles, tire son nom de sa forme particulière. Son tronc se divise en 7 branches principales, comme 7 frères unis autour de la base. Mais au-delà de sa morphologie particulière, c'est la légende qui l'entoure qui a traversé les âges, captivant l'imagination des Angevins depuis des générations. Selon les traditions orales, l'histoire remonte au Moyen-Âge, à l'époque des croisades. 7 frères, tous fils d'un seigneur local, décidèrent de partir ensemble pour la Terre Sainte. Avant leur départ, ils se rendirent dans la forêt de Chandelay pour une dernière chasse. Arrivés par un jeune chêne, ils firent le serment solennel de revenir tous les 7 ou de ne pas revenir du tout. Pour sceller leur promesse, ils plantèrent chacun leur épée autour de l'arbre, formant un cercle parfait. Les années passèrent et la guerre faisait rage en Orient. En Anjou, les parents attendaient avec angoisse des nouvelles de leur fils. Un jour, un message arriva, porteur de tristes nouvelles. 6 des frères étaient tombés au combat. Seul le plus jeune avait survécu. Fidèle au serment, le dernier des frères refusa de rentrer seul. Il décida de rester en Terre Sainte, préférant l'exil au déshonneur de briser la promesse faite à ses frères. Les parents, accablés de chagrin, se rendirent dans la forêt, à l'endroit où leur fils avait fait leur serment. À leur grande surprise, ils découvrirent que le jeune chêne avait poussé de façon extraordinaire. Son tronc s'était divisé en 7 branches majestueuses, chacun poussant à l'endroit exact où les épées avaient été plantées. Ils comprirent alors que l'arbre était devenu le gardien du serment de leur fils, un monument vivant à leur mémoire et à leur fraternité. Siècle, le chêne des 7 frères est devenu un lieu de légende et de pèlerinage. On raconte que les âmes des 7 frères habitent toujours l'arbre, veillant sur la forêt et protégeant les voyageurs égarés. Certains affirment que par les nuits de pleine lune, on peut entendre le murmure des 7 frères dans le bruissement des feuilles. D'autres prétendent que toucher l'écorce de l'arbre apporte chance et protection, en particulier aux familles nombreuses. La légende a également donné naissance à des traditions locales. Pendant longtemps, les jeunes hommes, sur le point de partir au service militaire, venaient faire le tour de l'arbre, espérant ainsi s'assurer un retour sain et sauf. Aujourd'hui encore, le chêne des 7 frères reste un lieu empreint de mystère et de magie. Bien que l'arbre original ait disparu au fil du temps, un autre chêne remarquable de la forêt a hérité de la légende et continue de porter ce nom évocateur. Profondément ancrée dans le territoire angevin, nous parle de fraternité, de loyauté et du lien profond qui unit l'homme à la nature. Elle illustre également la façon dont les légendes peuvent transformer notre perception du paysage, donnant une dimension magique et symbolique à des éléments naturels. Le chêne des 7 frères nous rappelle que chaque arbre, chaque pierre de notre région peut être le gardien d'une histoire, d'un secret, d'une promesse faite il y a des siècles. Il nous invite à regarder notre environnement avec un œil nouveau, à être attentif aux murmures du passé qui résonnent encore dans nos forêts. Chers auditeurs, la prochaine fois que vous vous promènerez dans la forêt de Chandelay, prenez le temps de chercher ce chêne remarquable. Et qui sait, peut-être aurez-vous la chance d'entendre le chuchotement des 7 frères dans le buissement des feuilles. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde fascinant des mythes et légendes de l'Anjou.
Et pendant ce temps-là, Charlie nous a fait voyager, il nous a fait tout son péril en fait. C'était en quelle année que t'es parti toi là-bas en Inde?
Ça devait être en 2014. Oui, c'est à 2014.
Ouais. 2014, ça commence à monter. Bon, ce sera l'occasion d'un, peut-être que voilà, on t'invitera ou tu pourras échanger à l'occasion de ce samedi d'ouverture d'inauguration des Mystères du Gange, le 1er février à Loire-Odyssée. Justement, on est toujours avec Anne et Leslie pour nous récapituler les informations pratiques autour de cette exposition et de cette biennale qui va suivre. qui fait le pratique, qui fait le côté commercial. Leslie, 14h, c'est ça la date, hein, enfin l'heure.
L'heure, voilà, 14h effectivement, donc jusqu'à fin de l'après-midi, 17h30. Ouvert à tous, gratuit, et plein de propositions diverses, musique, contes, et puis ben, exposition à découvrir avec un petit jeu pour les familles.
Voilà, et ça c'est que le top départ. Après, pendant 2 ans, il y aura plein d'événements, mais on aura l'occasion dans Topette d'en reparler. Anne, pour Loire Odyssée, les horaires d'ouverture, peut-être pas le numéro de téléphone tout à l'heure, on a et puis les gens conduisent à cette heure-là, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir, où est-ce qu'on peut trouver des infos pratiques pour Loire Odyssée?
Pour Loire Odyssée, on va sur loire-odyssée.fr pour retrouver toutes nos informations, pour savoir comment on est ouvert. Donc pour l'instant, on est du mercredi au samedi de 14h à 17h30. Et puis on va ouvrir de plus en plus les beaux jours arrivants.
On espère les beaux jours, le soleil, on sait. Oui, il est là parce qu'il fait jour, mais bon, des fois on a du mal à voir ses rayons. Merci beaucoup, Anne Prigeon, chargée de médiation auprès des publics et de l'événementiel Loire-Odyssée, et Leslie Dibos, chargée d'exposition et éducatrice environnement à Loire-Odyssée également, d'être venue nous présenter le top départ des mystères du Gange, cette nouvelle biennale à Loire-Authion. Loire-Authion, on était aussi avec toi, Céline Ducoc, pour parler de la saison culturelle, de 2-3 spectacles en tout cas. Il reste encore des dates. Et il reste aussi les nuits de la lecture. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Céline?
Et bah, du coup, pour les nuits de la lecture, les 24 et 25, deux propositions. Donc n'hésitez pas, les décomptes le vendredi soir et des lectures dansées le samedi. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur loire-authion.fr, rubrique médiathèque. Et puis pour la saison culturelle, donc on ne vous reparle pas de la date de samedi qui est complète, mais pour Orage la semaine prochaine, donc dimanche 26 janvier à Andar, vous pouvez réserver en ligne, et c'est la même chose pour Oignon le 6 février. Donc loire-audion.fr, rubrique saison culturelle.
Voilà, et le 02 51 50, non, on va le mettre en description, tu vas me le redonner en rantaine juste après. Merci beaucoup, Céline Ducoc, chargée de projet culturel de Loire-Audion, d'être venue dans Topette ce soir. On se retrouve le mois prochain avec vous, mais nous on se retrouve non pas demain puisque c'est week-end pour l'émission, on se retrouve lundi. Prenez soin de vous, bon week-end et Topette.
Bonjour, c'est Lucie de Choupi Matoudi. Aujourd'hui, une simple question. Comment chat va? Oui, comment chat va? Avoir un petit félin dans notre vie, c'est profiter de sa présence apaisante, pouvoir peut-être jouer avec lui, le caresser s'il apprécie, ou encore s'étonner de certaines attitudes, s'attendrir de ses petits ronrons quand il s'installe sur nos genoux, ou mieux encore, sur notre clavier d'ordinateur. Non, je ne parle pas du tout pour moi. Mais bien souvent, quand on voit notre chat, ou bien celui du voisin, de sa sœur, de son copain, on ne le regarde pas vraiment. Comment ça? Félix a beaucoup maigri ce mois-ci? Hein, Choupette? Non, elle va bien. Bon, elle vomit tous les jours, mais les chats, tu sais. Ce qu'on ignore souvent, c'est qu'à l'origine, le chat est un prédateur autant qu'une proie. Et que peut faire une proie pour survivre? Cacher ses faiblesses, entre autres. Les problèmes de santé du chat sont souvent détectés assez tard par leurs humains, parfois malheureusement trop tard, parce que nos petits félins ne manifestent pas immédiatement de mal-être, d'inconfort. Et puis, on détecte mal les signes de douleur chez eux. On ne réalise pas toujours qu'un chat qui mange moins, ou qui mange mais qui perd du poids, un chat qui se cache, ou un chat qui se pose dans sa litière toute la journée, c'est un chat qui va mal. La santé est un aspect crucial de la vie de nos matous, et c'est à nous, en humains responsables, de nous en préoccuper. Les visites de prévention, par exemple, sont un excellent moyen de faire le point sur la santé de Minou et d'être accompagné par une équipe vétérinaire si des soins s'imposent. Aujourd'hui, pour parler de la santé de nos chats, j'accueille Agathe. Bonjour Agathe, comment vas-tu?
Bonjour Lucie, ça va bien et toi?
Ça va. Alors, toi tu es ASV. Oui. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier? Qu'est-ce que ça signifie ASV?
Alors, donc ASV, ça signifie assistante spécialisée vétérinaire. Donc du coup, dans ce métier-là, on va dire qu'on a un peu deux parties différentes. On va avoir la partie administrative, où on gère l'accueil de la clinique, on gère le téléphone, on gère les rendez-vous, l'emploi du temps, on gère les stocks, les commandes, toutes les choses comme ça. Et puis on a toute la partie médicale, si on veut dire, donc vraiment l'assistanat au vétérinaire. Donc on va l'aider en consultation s'il y a besoin de faire un peu de contention pour faire une prise de sang, pour faire certains soins sur les animaux. Et puis on va aider aussi en chirurgie, donc l'avant-chirurgie, on va préparer le chat à la chirurgie, l'endormir, le raser, préparer les instruments, un peu comme une infirmière, mais pour les animaux.
T'es multitâche alors?
C'est ça.
Et toi, qu'est-ce qui te plaît le plus?
Bah, moi, c'est le côté médical, mais beaucoup d'assistantes vétérinaires vous diront ça, c'est plutôt le côté animaux que le côté humain, même si ça va ensemble.
Bien sûr. Alors, tu exerces dans une clinique un peu particulière, est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, alors bah, du coup, j'exerce dans la clinique Mon Chat et Moi, et c'est une clinique réservée aux chats.
Alors, qu'est-ce que ça implique?
Eh ben, du coup, en fait, on a remarqué depuis des nombreuses années que les chats sont des animaux très, très stressés et qui ont beaucoup de mal à sortir de chez eux, à part si c'est des chats d'extérieur qui sont habitués à leur jardin. Mais ils ont vraiment leur territoire défini, et dès qu'ils sortent de leur territoire, ils sont très stressés, très peureux, ils peuvent être agressifs, ils peuvent être tout timides, ils peuvent vraiment avoir des réactions très différentes d'habituellement chez eux, et ils sont aussi très sensibles aux odeurs. Donc du coup, dans une clinique traditionnelle, il y a tous les autres animaux, il y a les chiens qui aboient, il y a toutes les odeurs des autres animaux, et ça, c'est vraiment un gros stress pour eux. Et du coup, des fois, ça dérange vraiment beaucoup pour l'examen clinique du vétérinaire. Il a énormément de mal à faire des choses sur le chat. Et du coup, bah, le fait d'être vraiment réservé au chat, tout est, bah, du coup, il y a que des chats. Et vraiment, tout est adapté. Les salles de consultation, il y a pas mal de, enfin, on essaye de mettre des étagères en hauteur pour que les chats, ils aiment bien se percher en hauteur. Donc, ça les aide. On a des petits diffuseurs d'huiles essentielles pour les apaiser. Tout est calme. Il y a une petite musique d'ambiance. Enfin, on essaye de tout faire au mieux pour que le chat soit le moins stressé possible. Et que du coup, le vétérinaire puisse au mieux faire son examen clinique et se rendre compte des problèmes ou pas, parce que le chat les cache beaucoup. Donc, s'il est plus à l'aise, il va un peu moins cacher ses petits symptômes.
Oui, en effet, c'est quelque chose de vraiment crucial. Est-ce que toi-même, tu as une histoire qui t'a particulièrement marquée dans ton parcours professionnel?
Alors, il y a en fait peut-être pas forcément une histoire précise, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qu'on fait suivre leur chat dans d'autres cliniques, et une fois arrivés chez nous, dès le début, ils nous disent, bon, alors mon chat, il est un petit peu agressif, il a beaucoup de mal chez le vétérinaire, etc. Et au final, vu qu'on met tout en œuvre vraiment dans la douceur pour mettre à l'aise le chat, bah, beaucoup de fois, les gens sont étonnés. Ils nous disent, waouh, mais je l'ai jamais vu aussi à l'aise que ça chez le vétérinaire, c'est trop cool, etc. Et du coup, bah, ça, à chaque fois, ça nous fait plaisir parce qu'on se dit que vraiment, c'est un concept qui est, bah, qui est réel au final et qui met vraiment à l'aise les chats et au final les humains avec, quoi.
Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, ça permet aussi aux humains de pouvoir mieux appréhender les problèmes de santé de leur chat, sans
c'est
doute.
C'est ça. Parce que du coup, en fait, le stress du chat fait aussi stresser les humains et inversement au final. Et du coup, bah, si les petits humains, ils sont plus à l'aise à venir chez le vétérinaire, ils vont moins stresser, ils vont pas se dire, oh là là, c'est une horreur. Non, mais moi, je l'emmènerai que s'il est malade parce que sinon, ça le stresse trop, ça me stresse trop, c'est trop compliqué. Et donc là, au final, le fait que ça apaise un peu tout le monde, bah, ils viennent beaucoup plus souvent pour faire de la prévention. Et bah, comme tu l'as dit au tout début, bah, c'est super important, la prévention chez le chat, vu qu'il cache beaucoup, beaucoup les symptômes, quoi.
Oui, tout à fait. Et c'est vraiment le concept de ce qu'on appelle la clinique cat-friendly.
Ouais,
c'est-à-dire faite pour les chats, vraiment, dans un environnement qui est destiné à les aider.
C'est ça, tout à fait.
Alors, Agathe, on arrive déjà à la fin de cette chronique. Oui. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter?
Alors, bah, je voudrais vraiment ajouter que, comme on l'a dit, vraiment, les chats, ils cachent énormément leurs symptômes. On se rend pas compte qu'ils sont malades. Et ça, c'est vraiment d'expérience. Une fois que les symptômes sont arrivés, c'est que la plupart des maladies sont déjà bien avancées. Et c'est malheureux parce que du coup, des fois, on peut pas les traiter. Donc vraiment, allez voir votre vétérinaire tous les 6 mois pour votre chat et il sera en meilleure santé.
Oui, la prévention, c'est
très capital. Important. Ouais, ouais.
Merci à Agathe.
Merci.
Merci à tous.
C'est à bébé, j'ai entendu parler tu parles aux gens, parle de moi, madame Bédo. Toi plein cancan, c'est un lot cancan. Dans la rue Clébord, y'a pas.
Tous.